Et 7h10 à Managua. Exécution extrajudiciaire, emprisonnement et menaces de milices politiques. Depuis près de 3 ans, le Nicaragua a sombré dans la répression des oppositions, constat dressé par la FIDH dans un long rapport. C'est notre dossier du jour. Avant cela, on va revenir sur le divorce Trump-McConnell aux États-Unis et le Covid, bien sûr. Toujours à la une. Bienvenue à tous. Discret jusque-là, Donald Trump n'a pas pu résister. Le revoilà qui revient dans le débat pour s'en prendre donc au chef des Républicains du Sénat, Mitch McConnell, qui avait publiquement accusé l'ancien locataire de la Maison-Blanche d'être responsable de l'assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier, malgré son acquittement au Sénat le week-end dernier. Donald Trump appelle désormais le parti à tourner le dos à celui qui était pourtant jusque-là son allié, Anne Corpé.
Mitch McConnell est un escroc politique renfrogné et maussade qui ne sourit jamais. Si les sénateurs républicains restent avec lui, ils ne gagneront jamais, écrit Donald Trump. Dans cette charge inédite contre celui qu'il a fidèlement servi pendant 4 ans, l'ex-président prévient « Quand cela sera nécessaire, je soutiendrai aux primaires républicaines les candidats qui épouseront ma politique de l'Amérique d'abord ». Ce communiqué au vitriol de 4 pages n'est pas surprenant. Mitch McConnell avait sévèrement étrillé l'ex-président samedi dernier après son acquittement et a publié ce mardi une tribune dans le Wall Street Journal, dans laquelle il répète que Donald Trump est responsable des émeutes du Capitole. Un nouveau geste de défiance inadmissible pour l'ancien président, mais la sortie de Donald Trump risque de coûter cher aux républicains, déjà confrontés à une carte électorale plus difficile que leurs opposants pour les élections de mi-mandat en 2022. Ils remettront en jeu 24 sièges contre seulement 10 chez les démocrates. Anne Corpé, Washington. RFI.
Et c'est donc bien en réalité à tout le parti que s'adresse Donald Trump, selon le spécialiste des États-Unis Jean-Éric Brana, maître de conférence à Paris.
On peut effectivement considérer que la sortie de Donald Trump est en réalité un avertissement beaucoup plus large envoyé à l'ensemble des républicains plus modérés. Il y a des élections de mi-mandat dont les primaires auront lieu dans un an tout pile. Donc Donald Trump veut montrer qu'il peut peser dans le jeu politique et faire la pluie et le beau temps au parti républicain, mais il reste à voir si cela sera aussi vrai qu'il le pense, parce que l'hémorragie que l'on enregistre actuellement parmi les électeurs républicains pourrait changer complètement le jeu. Il y a eu près de 25% d'électeurs qui ont quitté le parti républicain, et parmi ceux qui ont voté Donald Trump aux dernières élections, et rappelons-le, ils étaient 74 228 000, beaucoup d'entre eux aujourd'hui ne referaient pas le même vote d'après tous les sondage. Cette attaque contre le Capitole a heurté l'Amérique très profondément. En réalité, si les pourcentages de Trumpistes restent les mêmes, c'est bien parce que le parti républicain n'existe quasiment plus. Et donc, on ne sait pas ce que ça va donner dans les urnes, même dans un an à partir d'aujourd'hui.
D'où le malaise de ce parti qui cherche sa ligne. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
La presse s'interroge. Quelle est justement cette ligne Trumpiste ?
Mais justement, le Washington Examiner la résume aujourd'hui ainsi. Sans les 2 derniers mois abominables de sa présidence, l'héritage de Donald Trump ressemblerait à ceci. Une refonte conservatrice du système judiciaire fédéral, y compris de la Cour suprême, un vaste programme de réforme fiscale et un projet de loi historique de réforme de la justice pénale. Et toutes ces réalisations n'ont été possibles que parce que Mitch McConnell les a fait adopter au Sénat, rappelle le journal conservateur.
Le Washington Post, Stéphanie, se penche aussi sur la question de savoir quel est l'héritage que Donald Trump voudrait voir porté par les candidats conservateurs en 2022.
Oui, et l'éditorialiste estime que si on se penche sur les mesures politiques prises sous la présidence Trump, on se rend vite compte que le milliardaire a annoncé puis décidé tout et son contraire. Il n'y a donc pas d'héritage à proprement parlant, pas de Trumpisme, résume le Washington Post. Et ce constat devrait inquiéter les potentiels candidats Trumpistes parce que les voix des électeurs de Trump ne peuvent être gagnées par de pâles imitations. Le seul moyen de convaincre les électeurs de Trump, c'est d'être Trump, estime le Washington Post. Pourtant, constate The Hill, Mitch McConnell tente le tout pour le tout afin de permettre aux républicains de se repositionner. Mais l'ajout oratoire entre le dirigeant des conservateurs au Sénat et l'ancien président pourrait bien signaler le début d'une guerre fratricide qui risque d'affaiblir considérablement le camp républicain lors des élections de 2022. Le New York Times est encore plus pessimiste. La guerre fratricide au sein de la famille républicaine est déjà terminée, estime le journal. Le parti appartient désormais à Donald Trump aussi longtemps qu'il le souhaite.
Donald Trump, dont en marre d'entendre parler de Joe Biden, le nouveau président l'a dit hier lors d'un déplacement dans le Wisconsin, un état clé de son élection, Stéphanie.
Oui, le président a pris les Américains à témoin en vantant les mérites de son gigantesque plan de sauvetage de l'économie de 1 900 milliards de dollars, écrit le quotidien canadien La Presse. Un plan qui, selon Joe Biden, créera 7 millions d'emplois rien que cette année, renchérit le quotidien local Milwaukee Journal Sentinel. Le président s'exprimait dans un théâtre de cette ville du Wisconsin. On l'écoute.
I literally pray that I have the capacity to do for the country what you all deserve need be done.
Je prie pour avoir la capacité de faire pour le pays ce que vous méritez qu'il soit fait, a expliqué Joe Biden. J'espère que je mesurerai à chaque fois l'impact de mes décisions sur vos vies et j'espère aussi avoir un petit peu de chance dans mes choix.
Joe Biden, qui s'est attaqué dès sa prise de fonction à la question de l'immigration, il avait promis de suspendre les expulsions de clandestins pendant 100 jours, mais son décret a été bloqué par la justice du Texas. Du coup, Stéphanie, eh bien, les vols d'expulsion ont repris, notamment vers Haïti.
Oui, entre le 1er et le 15 février, 12 vols ont ramené des migrants haïtiens qui se trouvaient clandestinement sur le sol américain vers leur pays natal, rapporte aujourd'hui le Nouvelliste. Plus de 500 Haïtiens ont ainsi été expulsés sans avoir eu la possibilité de demander l'asile aux États-Unis.
Alors qu'Haïti est en plus, plus que jamais, en proie à l'insécurité et à une interminable crise politique.
Et dans ce contexte, les Haïtiens de la Martinique s'adressent à Emmanuel Macron, rapporte l'agence haïtienne Alter Presse. Les signataires de la lettre rappellent au président français l'insécurité, les massacres dans les quartiers défavorisés, l'irrégularité du processus électoral et la dislocation de l'état de droit en Haïti. Il est clair, estiment ces Haïtiens installés en Martinique, que nous assistons en Haïti au retour des périodes les plus sombres de la dictature que nous croyons appartenir au passé. Et ils demandent à Emmanuel Macron de ne plus soutenir le régime incarné par Jovenel Moïse. Le collectif Haïti France, de son côté, a décidé d'envoyer une lettre au ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, une lettre également publiée aujourd'hui par Alter Presse. Le collectif réclame la fin de ce qu'il considère comme soutien complice de la France à un régime haïtien qui s'apparente à une dictature.
Des relents de dictature et un silence complice, sinon du moins un désintérêt, une situation qui n'est pas sans rappeler ce qui se passe au Nicaragua. C'est notre dossier du jour avant de vous retrouver, Stéphanie. Le Nicaragua en dehors des radars médiatiques. Et pourtant, la Fédération internationale des droits de l'homme publie un rapport sur la situation politique dans le pays, ou devrais-je dire la répression politique menée par le président Ortega et son épouse Rosario Murillo, qui occupe la vice-présidence. Deux ex-révolutionnaires qui ont contribué à la chute de la dictature à la fin des années 70. Deux ex-révolutionnaires qui aujourd'hui s'accrochent au pouvoir en réprimant mortellement les oppositions. Un basculement la FIDH et la CENID, son organisation partenaire, datent précisément d'avril 2018, comme l'explique Rimena Reyes, responsable du bureau des Amériques pour la FIDH.
Effectivement, avril 2018, pour nous, c'est vraiment le basculement du régime d'Ortega, où d'un seul coup, une manifestation assez classique contre une réforme de la sécurité sociale va donner lieu à 3 personnes tuées. Ensuite, les gens vont réagir de manière indignée et a fait 328 personnes assassinées par la police et les forces paramilitaires. Des exemples concrets, c'est ce qu'on a essayé de faire en fait, c'est qu'on a pris 113 cas d'assassinat par la police et les paramilitaires et on a regardé dans le détail. On s'est aperçu que dans la majorité des cas, ça a été des opérations coordonnées entre police et groupes de choque, des groupes
des milices
ortéguistes coordonnées. Et donc en avril, mai, juin, on a ces gens qui tirent dans la foule, des francs-tireurs qui vont tirer pour tuer, et c'est essentiellement des étudiants qui vont se faire tuer, des véritables massacres, on va tirer dans la foule. et on va tuer des dizaines de personnes. On a des situations absolument dramatiques où les gens disent « mais me tue pas ». Et les gens se connaissent aussi dans des villes comme Léon ou Masaya. La personne qui va être assassinée connaît le policier, lui dit « mais tu me connais, ne me tire pas dessus ». On a des témoignages et il va tirer directement dans la poitrine. Donc il y a aussi ce sentiment de polarisation où on a monté et la police et ses milices orteguistes à se convaincre qu'il faut abattre, que l'opposition, que les manifestants sont les hommes à abattre.
Et justement, vous parlez d'exécution extrajudiciaire.
Oui, dans l'échelle de droit pénal, les exécutions extrajudiciaires sont particulièrement graves parce que ce sont les autorités qui, de manière arbitraire, vont assassiner. Là, on parle en plus d'exécutions extrajudiciaires de crimes contre l'humanité parce que dans le modus operandi de ces assassinats, on voit bien qu'il y a une organisation et des ordres qui ont été donnés. Et c'est là où on questionne la responsabilité des plus hautes autorités, des autorités politique, le régime, enfin, M. Ortega, Mme Murillo et ses ministres, évidemment des autorités de la police, d'où sont venus des ordres, mais même également du ministère de la Santé, parce que la ministre de la Santé a donné l'ordre de ne pas soigner les blessés. Et on a parmi les 113 cas qu'on a examinés, des cas de personnes qui sont mortes de leurs blessures aux portes de l'hôpital qui leur était fermé.
Alors, cette répression extrêmement forte s'est opérée essentiellement cette année 2018, donc à partir d'avril, de cette répression qui est montée en puissance. Il y a eu encore énormément d'arrestations en 2019. 2020, les arrestations se poursuivent. Il y a eu quand même des libérations, mais un certain nombre de personnes qui restent emprisonnées. Aujourd'hui, quelle est la tactique, finalement, des autorités pour continuer à miner cette opposition et à miner la société civile qui demande des comptes au régime d'Ortega?
Alors, on a une tactique qui change, mais on a d'une part des gens qui sont encore détenus. Alors, en 2018, on parlait de 500 personnes, maintenant il y a 100 prisonniers politiques. Et puis ceux qui ont été libérés, on n'a pas pour autant arrêté de les poursuivre. C'est-à-dire qu'ils ont encore des poursuites pénales à leur encontre. Et puis surtout, ils sont stigmatisés, ils sont harcelés. Par exemple, les étudiants, on ne leur permet pas de s'inscrire à l'université. On a licencié 405 médecins aux professions médicales parce que elles avaient aidé, soigné l'opposition politique. Et puis également, il va y avoir des législations qui ont été votées là très récemment, notamment la loi des agents étrangers, qui est étrangement similaire à une loi russe, une aussi qui vise nommément l'opposition politique, la loi sur la défense des droits du peuple, qui permet en fait d'interdire à l'opposition de se présenter aux élections. Et puis enfin, ce qui est aussi très inquiétant, c'est les personnes qui sont visées par ce harcèlement. On a par exemple un représentant de l'Église qui a reçu de l'acide sur le visage. Il y a un incendie au sein de la cathédrale de Managua que le Vatican lui-même a considéré comme un acte terroriste. Donc, on s'attaque à toute une partie de la population qui est considérée non pas seulement opposition, mais comme des ennemis.
Alors, pourquoi ce désintérêt, finalement, de la communauté internationale, quand même, pour ce qui se passe au Nicaragua? Parce qu'on n'a pas l'impression que ça intéresse grand monde.
C'est le deuxième pays le plus pauvre de l'Amérique latine. Ce qui est important, et c'est pour ça qu'on a fait une petite vidéo que vous pouvez trouver sur le net, on explique un peu l'historique, pour expliquer comment cet Ortega révolutionnaire des années 70 est en train de se transformer en un terrible futur dictateur. Cette évolution peut paraître surprenante, difficile à comprendre pour certains. Et puis, les enjeux économiques ne sont pas très importants. Le Nicaragua, ce n'est pas le Venezuela en termes de pétrole, etc. Et puis, il faut bien le dire, on est quand même dans une époque où il y a énormément de pays qui sont en train de vivre une réduction de l'espace social. Mais ici, on a quand même quelques particularités. C'est la violence. Moi, je travaille sur toute l'Amérique latine. Heureusement, pas tous les jours qu'on a 328 personnes qui sont exécutées et dont les meurtres demeurent dans l'impunité la plus totale. Parce qu'il faut voir le dénuement de ces familles qui n'ont pas du tout de possibilité d'accéder à la justice. Parce que là encore, c'est un autre problème du Nicaragua, c'est qu'il n'y a plus d'indépendance de la justice. C'est pour ça qu'on a voulu effectivement sortir ce rapport pour dire attention, la situation est dangereuse. C'est un pays qui a vécu une guerre civile il y a 40 ans. On est dans une situation de polarisation et d'armement de groupes paramilitaires. Attention.
Situation dangereuse avant les élections générales de novembre au Nicaragua. Interview signée Véronique Guémard. On s'arrête à présent au Pérou. L'heure est à la polémique au sujet des vaccins contre le Covid. Stéphanie Schuller, vous êtes toujours là. Le Congrès met en place une commission parlementaire.
Oui, cette commission a 15 jours pour enquêter sur les passe-droits dont ont bénéficié des personnalités politiques pour se faire vacciner justement contre le Covid-19. Rapporte le journal El Comercio aujourd'hui. Ce scandale baptisé Vacuna Gate a provoqué ces derniers jours la démission de plusieurs membres du gouvernement péruvien.
Et on en a parlé ici même. Merci beaucoup Stéphanie. Le Chili a lui commencé lundi sa campagne de vaccination des enseignants, dont l'espoir de rouvrir au plus vite les écoles. Les profs saluent, mais demandent plus. Carlos Diaz est le président des collèges des enseignants du Chili.
En tant qu'enseignants, nous sommes évidemment d'accord avec cette campagne. La vaccination des enseignants est importante, mais nous avons dit aux autorités que ça ne peut pas être la seule mesure à prendre. Le vaccin n'est pas le seul facteur qui peut garantir à la communauté enseignante de ne pas être contaminée par le virus. Voilà pourquoi nous avons demandé à ce que soient également vaccinés l'ensemble des travailleurs du secteur de l'éducation, qui travaillent aux côtés des professeurs dans les maternelles, les écoles, les lycées. Plutôt que de débattre de la date précise du début de la vaccination, nous préférons parler des conditions qu'il faut mettre en place pour lutter contre le virus, parmi lesquelles la vaccination. La vaccination, c'est une avancée, mais pour le reste, nous ne sommes pas écoutés. Et c'est un problème. Par exemple, nous n'avons reçu aucune réponse au sujet des transports scolaires et autres mesures qui ne coûteraient pas grand-chose, mais permettraient de lutter plus efficacement contre le virus.
Le virus qui nous amène à présent aux Antilles.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Mickaël.
Carnaval et mesures anti-Covid, il fallait s'y attendre, hein, ça ne fait pas bon ménage en Martinique.
Oui, le carnaval autrement, dans l'enceinte du stade de Dillon, n'a pas attiré la grande foule. Commentaire d'un organisateur, un carnaval, ça ne se fait pas dans un stade. En revanche, il y avait du monde devant les barrages censés interdire l'accès au centre-ville de Fort-de-France. Un face-à-face qui a quelque peu dégénéré hier en fin de journée. Xavier Chevalier.
Pendant plusieurs heures en fin d'après-midi, un vidémaron a fait des allers-retours au boulevard Amiral de Guédon. À chaque point de contrôle, un face-à-face entre FETA et services de sécurité avait lieu. Face aux chansons, gendarmes et policiers sont restés de marbre. Mais lors d'une énième confrontation, plusieurs projectiles ont été envoyés contre les forces de l'ordre. Ces dernières ont immédiatement répliqué avec du gaz lacrymogène, ce qui a dispersé la foule. Durant presque une heure, les gendarmes ont essuyé de nombreux jets de projectiles. Les gendarmes, toujours sous le feu nourri de bouteilles en verre et de cailloux, ont décidé de se replier au niveau de la préfecture. Un choix stratégique qui a immédiatement apaisé la situation. Seul fait marquant après cela, quelques poubelles ont été incendiées en plein milieu du pont et les barrières abandonnées sur place ont été jetées dans le canal Levassor. Dès lors, Fort-de-France a retrouvé son calme. Les gens venus pour profiter du carnaval ont repris le pouvoir. Quelques minutes après ces affrontements, un puis deux groupes ont envahi les rues de la capitale pour un vidémaron. La situation ce mercredi, synonyme de dernier jour du carnaval, s'annonce particulièrement tendue alors que ce face-à-face semble cacher un malaise plus profond.
En Guadeloupe, il y a également eu hier, mardi gras, quelques défilés clandestins aux grandes dames des autorités. Ça s'est passé du côté de Pointe-à-Pitre. Direction maintenant la Guyane et plus précisément la commune d'Irakoubo, à mi-chemin entre Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Irakoubo, une nouvelle fois envahie par les papillons cendres et leurs petites fléchettes urticantes et irritantes. Écoutez la maire d'Irakoubo, Céline Régis, au micro de Jean-Gilles Assar.
Nous avons installé des pièges pour pouvoir les tuer. Nous utilisons également le brûleur que nous avons. Il n'y a pas de pesticides pour ça, c'est interdit dans les établissements publics. La seule chose qu'on peut utiliser pour laver la cendre, c'est de l'eau et du savon, donc nous y attelons. Nous avons la chance que là, c'est les vacances scolaires, donc du coup, au niveau des écoles, les enfants vont être un peu protégés. Donc ça permettra peut-être qu'on arrive au bout de ce cycle. Nous réfléchissons à l'abattage des arbres qui invasifs, des arbres qui préfèrent de façon à essayer de prendre la chose à la racine. On essaye de trouver des solutions, mais il n'y en a pas vraiment.
Irakubo, qui est plongé dans le noir depuis quelques jours pour éviter d'attirer les papillons en question. Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, et aux équipes de La Première. À demain. Dans notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques, réalisé aujourd'hui par Claude Battista, toutes ces informations et nos éditions qui sont à retrouver évidemment sur notre compte Twitter, RFI Amérique, et en podcast aussi sur notre player RFI Pure Radio. À demain.
7 milliards de voisins.
Céline Guillaume attend vos témoignages sur les thèmes de